Vous écoutez, on lit pour vous.
Les applications de rencontres influencent-elles nos relations amoureuses? Un texte d'Annie Labrecque, paru le 7 février 2025 dans Québec Science. Le fameux swipe à droite ou à gauche transforme-t-il notre parcours amoureux? Tour d'horizon de l'univers des rencontres à l'ère du numérique. Maude Lecomte, chargée de cours au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal et titulaire d'un doctorat en sexologie, le mentionne dès les premières pages de son livre « Les applications de rencontres », publié aux presses de l'Université du Québec. Elle n'a pas rencontré l'homme de sa vie via une application, mais elle les a elle-même testées. Ces plateformes redéfinissent-elles nos relations? Ou ne sont-elles qu'un nouvel outil au service des mêmes dynamiques amoureuses? Si elles ont parfois mauvaise presse, Maude Lecomte souhaite corriger le tir en dressant un portrait nuancé de leur influence. Nous l'avons rencontrée pour en discuter. Québec Science, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet? Maude Lecomte, ma propre utilisation. Comme je l'explique dans le livre, on étudie rarement un sujet avec lequel on n'a aucun contact. Ces plateformes nous montrent beaucoup de choses sur notre société. Malgré leur côté déshumanisant et leur aspect catalogue, en même temps, leur popularité montre que les gens cherchent encore l'amour avec une seule personne à long terme, même si les possibilités de relations sont diversifiées. Ces applications sont à la fois utiles et pleines de défauts, mais n'opèrent pas de changement fondamental sur nos structures sociales. Alors pourquoi s'en méfier ou les démoniser? Québec Science, vous mentionnez dans votre livre qu'il existe plus de 1500 applications de rencontres. Est-ce que cela indique qu'elles ne fonctionnent pas si bien ou au contraire qu'elles répondent à un besoin? Maude Lecomte. C'est surtout le reflet de leur popularité. On critique souvent les applications de rencontres comme Tinder ou Bumble, mais leur succès démontre qu'elles comblent un besoin. Parallèlement, des applications nichées émergent pour contourner certains problèmes observés sur les applications populaires. Il n'en demeure pas moins que les applications ont des avantages indéniables. Rencontrer des gens depuis son salon, effectuer un premier tri et éviter certains désagréments des rencontres en personne, comme le rejet. Tout ceci encourage l'utilisation des applications. Elles ont des limites, mais elles offrent aussi des avantages. Québec Science, la technologie a-t-elle simplifié ou complexifié les rencontres? Maude Lecomte, les deux. Pour les personnes plus introverties, par exemple, ces plateformes facilitent le premier contact. Mais elles imposent aussi un environnement fonctionnant avec ses propres codes. Ne pas les comprendre peut mener à des expériences décevantes. Par exemple, une bonne description ultra intéressante et pleine d'esprit ne compensera pas une photo peu engageante publiée sur ces plateformes à l'environnement très visuel. Il faut en être conscient. Québec Science, l'intelligence artificielle transforme-t-elle la dynamique des rencontres en ligne? Maude Lecomte. Effectivement, l'intelligence artificielle pourrait accentuer ce qu'on reproche déjà aux applications de rencontres. D'une part, des algorithmes sélectionnent des profils à présenter aux utilisateurs selon divers critères, note de la rédaction, influençant ainsi qui l'on rencontre. D'autre part, certaines fonctionnalités génèrent des phrases accrocheuses ou des réponses suggérées pour entamer une discussion, rendant les interactions plus artificielles. Cela dit, on observe une volonté de revenir à des rencontres plus personnalisées. De nouvelles applications émergent pour répondre à cette demande, même si elles fonctionnent, elles aussi, avec des algorithmes. Le problème, c'est que les algorithmes sont souvent opaques, même pour leurs concepteurs. On ignore donc leurs impacts sur nos choix amoureux. Québec Science, ces algorithmes peuvent-ils exacerber certains biais ou inégalités? Maud Lecomte, oui. Les algorithmes créés pour assortir les gens et créer des relations risquent fortement d'être influencés par les biais des concepteurs eux-mêmes. Cela peut mener à une forme de stratification sociale fondée sur des critères de beauté. Par exemple, les profils qui correspondent davantage aux standards de beauté se feront probablement proposer des profils qui sont aussi considérés comme tels. Mais attention, les applications de rencontres ne sont pas le problème. Elles reproduisent une réalité qui existe déjà dans la société. Québec Science. Sommes-nous toujours à la recherche de romantisme dans nos relations? Maud Lecomte. Oui. Et c'est ce que j'avais observé dans ma revue de littérature. Des études récentes, notamment de l'UQAM, se sont intéressées à l'intimité contemporaine et font ressortir que les gens attribuent une valeur importante au romantisme. La plupart des utilisateurs se disent modérément ou totalement romantiques. Québec Science. Est-ce encore tabou d'admettre qu'on a rencontré son partenaire sur une application? Maud Lecomte, de moins en moins. Car beaucoup de couples se forment sur les applications. Mais on ressent encore le besoin de préciser que la rencontre s'est faite en ligne, comme si c'était un environnement de rencontre inférieur à d'autres. Pourtant, les quelques études qui se sont attardées aux relations issues des applications de rencontre ont démontré que ces relations ne sont pas moins durables que celles formées autrement. Une fois que la relation sort de l'application, c'est du pareil au même. Québec Science. Faut-il avoir une bonne carapace pour utiliser ces applications? Maud Lecomte. Un peu, oui. Il faut relativiser et faire preuve d'un certain détachement face au ghosting, note de la rédaction, lorsque l'autre personne cesse soudainement la communication sans explication. Cela n'a souvent rien à voir avec nous. La personne a pu supprimer la conversation sans le vouloir, est occupée à rencontrer quelqu'un d'autre ou ne se sent plus disposée à rencontrer. Ce n'est pas nécessairement un rejet de votre personne. Ceux et celles qui abordent ces plateformes avec détachement et dans un mode exploratoire semblent en tirer une meilleure expérience. Québec Science, auriez-vous des conseils pour ceux et celles qui voudraient essayer les applications de rencontre? Maud Lecomte, ne choisissez pas une application au hasard. Les gens ont tendance à choisir la plus connue, mais elle ne correspond pas nécessairement à vos intérêts. Tinder a un grand bassin de personnes sur l'application, mais cela n'engendre pas davantage d'interactions concluantes. Trouvez une application adaptée à vos attentes. L'autrice mentionne les applications Peel pour le slow dating qui valorise la découverte de l'autre avant la rencontre. Go See You, pour les plus de 30 ans. Nolu et Dateability, pour les personnes vivant avec un handicap, etc. Québec Science. Avez-vous découvert quelque chose qui vous a surprise en menant vos recherches? Maud Lecomte. Oui. Comme beaucoup, je m'attendais à trouver davantage d'aspects négatifs que positifs. Il y a certes des problèmes et des enjeux sur les applications de rencontre qu'on ne peut pas nier. Mais en creusant davantage, j'ai constaté que les applications sont souvent perçues plus négativement qu'elles ne le méritent. Les relations amoureuses ne changent pas autant qu'on l'imaginerait. Les moyens de rencontre évoluent, mais les gens recherchent toujours la même chose. Québec Science. Comme vous le mentionnez dans le livre et comme le chantait Céline Dion, l'amour existe-t-il encore? Maud Lecomte. Oui, absolument. On entend parfois que l'amour, tel que vécu aujourd'hui, serait davantage une relation pratique que passionnelle. Mais cela ne correspond pas tout à fait à la réalité. Nos relations, libérées des contraintes sociales d'autrefois, sont peut-être plus passionnelles qu'elles ne l'ont jamais été. Autrefois, on se mariait par obligation ou pour le patrimoine familial. Il est probable que l'amour n'était pas toujours au rendez-vous. Oui, l'amour existe encore. Peut-être pas sous la même forme, mais il est toujours là. C'était « Les applications de rencontre influencent-elles nos relations amoureuses ?» un texte d'Annie Labrec, paru le 7 février 2025 dans Québec Science.
Nos poumons méritent notre attention. Un texte de Florence Dancause, paru le 9 mars 2025 dans La Presse. Après avoir exploré la fonction cardiaque, le docteur Alain Vadeboncœur s'intéresse au système respiratoire dans son livre « Poumons, du premier au dernier souffle ». Le médecin nous explique pourquoi cet organe vital exige prévention et curiosité. Entrevue. Pourquoi avoir écrit « Poumons, du premier au dernier souffle » Après avoir parlé du cœur dans « Cœur du premier au dernier battement », je devais parler de l'organe qui fait vraiment le travail d'aller chercher l'oxygène partout et de l'amener dans le sang. La relation avec l'oxygène, c'est l'histoire de la vie, en fait. Est-ce une partie de notre anatomie qu'on connaît peu? Par exemple, on apprend qu'on a une flore pulmonaire. J'ai appris en faisant mes recherches qu'on avait un microbiote pulmonaire. C'est encore en étude, mais on pense que ça a un impact sur certaines maladies évolutives comme l'asthme ou la maladie pulmonaire. Évidemment, il y a moins de bactéries que dans le côlon. On ne sent pas notre système respiratoire fonctionner tant qu'on n'a pas de problème. Devrait-on s'intéresser davantage à nos poumons? Les poumons, c'est l'organe le plus exposé de notre corps. Il est continuellement en contact intime avec l'environnement, ce qui lui confère une certaine fragilité. C'est un sujet qui devrait plus nous préoccuper et qui touche beaucoup plus de gens que le cœur. Les problèmes aux poumons peuvent commencer dès la naissance et tout le monde a été malade des poumons au moins quelques fois dans sa vie. Justement, tout le monde peut être affecté par des infections respiratoires. Quand doit-on s'inquiéter? Oui, c'est inévitable. C'est une des causes fréquentes de consultation. Tout symptôme irritatif ou inflammatoire, comme une toux qui persiste, qui s'aggrave ou qui s'accompagne d'autres symptômes, comme de la grosse fièvre ou de l'essoufflement, mérite une évaluation médicale. Les allergies saisonnières seront bientôt à nos portes. Que peut-on faire pour soulager nos symptômes? Les allergies saisonnières, qu'on appelle rhinites allergiques, sont un fléau. Elles peuvent nous rendre misérables. Les gens avec des allergies sévères devraient avoir des filtres HEPA dans leur système de climatisation et de chauffage. On peut aussi suivre les grosses journées de pollen. Durant ces journées, ce n'est pas le moment d'ouvrir grand les fenêtres. Les antihistaminiques sont souvent la pierre d'assise du traitement pour soulager les symptômes. La cortisone est un autre anti-inflammatoire. Éventuellement, pour les cas sévères, il y a des thérapies de désensibilisation. La pollution atmosphérique est dangereuse pour notre santé respiratoire. Est-on assez au courant de cet enjeu? Nos poumons doivent respirer l'air environnant. Des particules fines y pénètrent donc profondément. Elles sont émises par le transport, l'industrie, les incendies de forêt. On l'a vécu en 2023, mais aussi les feux de foyer. Santé Canada parle de 1400 décès par année au Québec liés aux feux de foyer. L'activation de beaucoup de feux de foyer entraîne l'augmentation de l'asthme, une détérioration des maladies et malheureusement beaucoup d'hospitalisations, puis des décès. Collectivement, surtout dans les milieux urbains, on a une responsabilité de protection les uns envers les autres et surtout envers les gens très jeunes ou plus âgés, qui sont fragiles et ont des problèmes pulmonaires. La pollution atmosphérique a un impact. Le tabac reste néanmoins l'ennemi numéro un des poumons. C'est un ennemi qu'on est en train de terrasser, mais les experts évaluent qu'entre 20 et 25 % des patients hospitalisés aujourd'hui le sont à cause des effets tardifs du tabac sur les poumons, le cœur, etc. Le tabac, c'est 7000 produits, dont une bonne partie est très toxique. Il y a des cancérigènes là-dedans, des irritants, du goudron. C'est vraiment le pire produit jamais inventé et malheureusement, à cause de la nicotine, c'est extrêmement difficile d'arrêter d'en consommer. L'exercice physique a-t-il un effet sur nos capacités respiratoires? Les poumons, ce n'est pas le cœur. C'est d'abord un organe passif, un vaste sac avec des millions d'alvéoles qui ne peut pas grossir. L'entraînement reste par contre extrêmement important pour notre santé pulmonaire. Ça va influencer favorablement des gènes protecteurs qui vont s'exprimer et qui vont diminuer l'incidence de maladies chroniques. Quels réflexes devrait-on avoir pour prendre soin de son système respiratoire? Si on arrête de fumer, si on fait de l'exercice, si on améliore notre environnement, on fait déjà les bons gestes. Les changements climatiques risquent cependant d'aggraver la poussière, le pollen et les particules fines. Ce sont de grands enjeux de santé publique qui vont aussi avoir un impact sur la santé respiratoire. Les poumons vivent avec nous dans l'air ambiant. Il faut en prendre soin un peu plus. Vie de médecin. Je fais de l'asthme léger de temps en temps. J'avais quelques épisodes où je toussais sans cause apparente. Le vétérinaire Sébastien Foury m'a fait réaliser que je changeais la litière de ma chatte dans le sous-sol avec un ventilateur et un masque, mais c'était un environnement un peu clos. Il m'a parlé de tout ce qui se transmet par la litière, les parasites, les bactéries. Autrement dit, je m'envoyais du stock dans les poumons et je n'avais pas réfléchi suffisamment à cet aspect très concret dans mon environnement qui faisait que j'avais de l'inflammation dans les poumons de temps à autre. Ça m'a fait réfléchir. Maintenant, je change la litière dehors avec un très bon masque, N95. J'ai complètement réglé mon problème en faisant ça. C'était « Nos poumons méritent notre attention », un texte de Florence Dancause paru le 9 mars 2025 dans La Presse.
L'Acadie peut-elle faire l'économie de l'inclusion? Un texte de Nicolas Jean paru le 4 mars 2025 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Autre façon de poser la question, l'affirmation de soi passe-t-elle nécessairement par le rejet de l'autre et de la différence? Le 4 mars, les États-Unis ont fait le choix de poursuivre une guerre tarifaire mondiale tout en mettant fin à leur soutien à l'Ukraine, alors que l'Europe vient de lancer un plan à 800 milliards pour réarmer le vieux continent. Quel rapport avec l'Acadie, me direz-vous? J'y viens. Si l'on porte notre regard à l'échelle mondiale, Le monde semble avoir amorcé un virage vers les extrêmes et le rejet de la différence. L'histoire nous a démontré, à plusieurs reprises, que personne ne sort gagnant d'un tel mouvement. La plupart des Américains ne bénéficieront pas de ces tarifs. Les Canadiens ont beaucoup plus à perdre que les 25 % qu'on leur impose. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Bien évidemment, ces tendances à grande échelle ne sont pas déconnectées de nos réalités quotidiennes plus locales. Elles nous affectent de plein fouet, qu'on le veuille ou non. Pour certains, c'est la stupeur, la peur, l'anxiété. Pour d'autres, c'est une forme d'éveil. C'est une confirmation de ce qu'ils ont toujours pensé sans pouvoir le dire. C'est la libération de la parole. Petite ou grande communauté, c'est l'heure du choix. On le voit partout, en premier lieu sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Fierté canadienne ou ralliement à Trump, préservation des politiques de diversité et d'inclusion ou rejet de ces dernières, Carney ou Poilièvre, Casa ou Palestine, une Acadie pure ou une Acadie de la mixité, etc. Il faudrait être naïf pour penser que cela n'affecte pas nos communautés acadiennes et francophones. Au courrier, nous avons la chance de pouvoir compter sur une équipe très diversifiée. Personnes issues de l'immigration, personnes issues d'autres provinces ou territoires, personnes jeunes et moins jeunes, acadiennes et acadiens, anglophones alliés. Cette diversité a largement profité au projet du courrier ces deux dernières années, sur tous les plans, éditorial, financier, engagement. L'apogée fut sans doute pour notre équipe, le CMA 2024, un espace d'inclusion et de diversité où tout le monde s'est senti acadien et rallié à la cause le temps d'un événement. Puis, il y a eu le retour à la réalité. La semaine dernière, deux incidents sont venus heurter des membres de l'équipe du courrier. Je n'en partagerai pas les détails pour préserver les personnes impliquées, mais aussi pour ne pas donner une tribune à un rejet exprimé publiquement et sans filtre. Disons simplement que dans les deux cas de figure, une personne a émis un commentaire très discriminant à l'égard de la personne visée afin de faire passer le message qu'elle n'a pas sa place au sein de la communauté acadienne. Ce n'était pas la première fois. Ce sont des choses dont on parle en équipe régulièrement. Avant cette semaine, je n'avais jamais senti le besoin d'en parler. Cependant, il y a des mots qui touchent plus que d'autres. Des mots qui vous donnent envie d'aller vous enfermer dans les toilettes pour pleurer. Des mots qui vous laissent penser qu'après tout, l'Acadie, ce n'est peut-être pas pour vous. Quand on arrive à la moitié de sa vie, comme moi, on en a vu d'autres. On répond ou on passe. Quand on est plus jeune, ce sont des mots qui peuvent rester avec vous et ne plus jamais vous quitter. Des mots qui peuvent vous amener à renoncer. Dans tous ces exemples, il y a souvent des traits communs. Des hommes sont, dans 90 % des cas, à l'origine de ces paroles. La plupart du temps, ce sont des personnes qui ont une voix qui porte. Quand ils disent quelque chose, on les écoute. Dans tous les cas, ces paroles sont prononcées publiquement. Cependant, ce qui me touche le plus dans ces expériences vécues ou racontées, ce ne sont pas les mots prononcés, mais les silences. La plupart du temps, personne ne s'interpose. Le silence donne du poids à la parole, la renforce. N'oublions pas la citation de Martin Luther King Jr. « Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Bien évidemment, il ne faut pas noircir le tableau. On ne parle pas d'une majorité. L'Acadie se montre inclusive et embrasse la diversité la plupart du temps. On le vit au quotidien. On l'a vécu au CMA 2024. Cependant, ces expériences plus négatives sont bien présentes et ont tendance à se répéter. Il s'agit d'une pente glissante. Dans le contexte actuel, il ne faudrait pas que l'Acadie la plus conservatrice prenne le dessus sur l'Acadie moderne inclusive et en quête d'ouverture. C'est ma conviction, celle que l'Acadie ne peut faire l'économie de l'inclusion, ne serait-ce que d'un point de vue démographique. Prenez l'exemple concret du courrier. Il serait mort en 2022 si des personnes comme moi, issues de la diversité, ne s'étaient pas jointes au projet pour le raviver. Nous vivons dans une ère incertaine que j'appelle l'ère des boucs émissaires. Il faut trouver un coupable. C'est une réponse facile à des problèmes bien plus complexes. C'est cependant la stratégie d'une grande partie du monde actuellement. Ce fut la stratégie employée lors des heures les plus sombres de notre histoire mondiale. En échangeant en équipe, un membre a partagé cette réflexion et avec laquelle je vous laisse. Je serai toujours étonné de voir les efforts déployés par certains membres de nos communautés pour détruire ce qu'ils essaient de préserver. Cette contradiction existe bel et bien au sein de nos communautés. Il faut en avoir conscience. Penser que la solution serait de rejeter la diversité, surtout lorsque cette diversité tente de contribuer activement au grand et beau projet collectif qu'est l'Acadie, serait une très grande erreur. Je reviens à ce que je disais au début. Dans un tel contexte, personne ne gagne. Il n'y a que des perdants. C'était L'Acadie peut-elle faire l'économie de l'inclusion? Un texte de Nicolas Jean, paru le 4 mars 2025 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse.